Et bonjour chers auditeurs des Clés du Gîte. Avez-vous déjà rêvé de découvrir les secrets qui feront décoller votre activité de location saisonnière? Eh bien, préparez-vous car j'ai une nouvelle passionnante à partager avec vous. Le rendez-vous des pros de la location saisonnière arrive le 31 mai 2024 avec un dîner VIP exclusif dès la veille. Cet événement est l'occasion en or pour tous les acteurs de se rassembler, échanger sur les meilleures pratiques et rencontrer les grands noms du secteur. Au programme, pas moins de 23 conférences captivantes et des espaces exposants pour découvrir les dernières innovations. Mais ce n'est pas tout. Pour les propriétaires de plus de 20 biens, bénéficiez d'avantages exclusifs, dîner VIP, accès à une masterclass privée de Booking.com et bien plus encore. Vous êtes passionné par le networking, les conférences riches en contenu? Vous avez envie de rencontrer en personne les sociétés avec lesquelles vous travaillez? Alors ne manquez pas cet événement incontournable. La place salon vous permettra d'accéder à l'ensemble des exposants et des conférences. Les places sont limitées, alors utilisez dès maintenant le code promo CLÉDUGÌTE24 pour réserver votre billet au tarif réduit valable sur les billets salon et les billets salon plus mastermind. Retrouvez toutes les infos sur www.rdvlocationsaisonnière.com. Au singulier tout attaché.com rdvlocationsaisonniere.com. Prenez vite votre place pour cette journée exceptionnelle qui pourrait transformer votre activité.
Je pense que je devrais normalement être plus stressée maintenant que je suis à mon compte et tout ça, mais en fait non, parce que on a nous toutes les cartes en main. Après, c'est à nous de prendre les bonnes décisions et voilà. Mais pas avoir peur de ce qui peut se passer. Il faut juste y aller des fois, puis ça va bien se passer.
Bonjour, je m'appelle Laura et je vous accueille sur le premier podcast dédié aux propriétaires et futurs propriétaires de gîtes ou de maisons d'hôtes. Comme mes invités, j'ai eu mon propre gîte pendant plus de 3 ans, après avoir travaillé 15 ans dans l'hôtellerie. Aujourd'hui, le gîte est vendu et je me consacre à l'accompagnement de celles et ceux qui ont pour projet de se lancer dans l'aventure. Vous entendrez ici des témoignages d'hôtes passionnés et passionnants, prêts à vous raconter leur parcours tout en vous donnant un maximum de conseils. Mais est-ce que vous connaissez vraiment tout l'univers des Clés du Gîte? Car en plus de ce podcast, les Clés du Gîte, c'est aussi une magnifique communauté de professionnels qui s'entraident toute l'année sur le compte Instagram. Et depuis un an, c'est également une plateforme d'accompagnement pour vous guider dans votre parcours de création d'hébergement. Une mine d'informations vous attend sur Insta, en newsletter ou sur le site www.lesclésdugite.fr. Bienvenue à tous ceux qui m'écoutent pour la première fois et merci à tous les autres pour votre fidélité. Bonne écoute. Bonjour Juliette.
Bonjour Laura.
Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour cette nouvelle saison du podcast.
Merci à toi, je suis très très heureuse d'être là avec toi.
Ah, ça c'est adorable. Et moi je suis très contente de pouvoir enfin découvrir ton histoire, votre histoire avec Alexandre bien sûr. Avant toute chose, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît?
Oui, bien sûr. Donc, moi, je suis Juliette Kieck. Nous avons, avec Alexandre, mon chéri, acheté une maison à Roscoff, dans le Finistère, en avril 2021, qu'on a rénovée entièrement pour en faire des chambres d'hôtes, qu'on a ouvert donc, l'été dernier. Voilà.
Ouais, super. Alors moi j'ai fait un petit peu mon enquête hein, comme toujours. Donc j'ai vu qu'avant vous travailliez dans des bateaux de croisière, je me trompe pas?
Oui, c'est tout à fait ça. On s'est rencontrés d'ailleurs tous les deux quand on travaillait sur les bateaux. Alexandre est chef de cuisine, donc à ce moment-là il était chef de cuisine à bord et moi alors j'ai eu plusieurs postes au sein de cette compagnie. J'ai commencé à la réception et puis j'ai terminé responsable clientèle à bord, donc je m'occupais des clients, donc tout ce qui était gestion, les plaintes aussi et tout ce qui était événement à bord avec les clients VIP aussi et la réservation des futures croisières.
Waouh, c'était vaste. Et combien d'années vous avez fait ça tous les deux?
Alors, moi j'ai travaillé 4 ans sur les bateaux et ensuite j'ai été débauchée en fait par quelqu'un qui affrétait les bateaux, c'est-à-dire qu'elle, Sophie, donc l'ancienne patronne, louait les bateaux de cette compagnie-là pour faire ses propres croisières. Donc c'était des croisières thématiques avec de la gastronomie à bord. Donc, on avait des chefs extérieurs, des chefs tous meilleurs ouvriers de France qui venaient à bord pour ces croisières-là, et également des artistes. Donc, on a des croisières théâtre avec, par exemple, Thierry Lhermitte, Patrick Timsit. On
Excellent.
A eu des croisières grosses têtes, donc là, avec l'équipe des grosses têtes de Laurent Ruquier. Des croisières jazz aussi. Voilà, ça change, en fait, à chaque croisière. Il n'y a que cette équipe de chefs qui reste, par contre, sur tout ça. Et donc là, j'ai travaillé 2 ans après pour elle avant de me lancer pour La Brise. Et Alexandre, de son côté, travaille toujours pour cette compagnie-là, mais maintenant, il est chef corporate. Donc, il encadre tous les chefs des bateaux. Il se charge d'une partie du recrutement, élaboration des recettes pour le bord, checking qualité. Et puis ensuite, il embarque aussi sur des croisières en particulier. Voilà, donc il a négocié du télétravail, ce qui fait qu'il est à la maison quand même la plupart du temps. Et il part après en déplacement sur ses croisières, on va dire, 8 fois dans l'année à peu près.
D'accord, super. Oui, donc ça va, ça reste un rythme qui est pas non plus, tu lui dis pas au revoir tout chaque semaine pour 3 mois.
Non, il part jamais pour 3 mois. Après, il a aussi des déplacements au siège à Marseille une fois par mois, mais c'est vrai qu'après, on a toujours eu l'habitude d'avoir ce rythme-là. Alors effectivement, maintenant qu'il y a la maison, on en reparlera sûrement un peu plus tard au niveau de l'organisation. Parfois, c'est un peu compliqué parce qu'on a une petite aussi, mais voilà, on trouve petit à petit notre rythme et voilà, on est épanouis tous les deux dans ce qu'on fait, donc c'est l'essentiel, on va dire.
Ah ouais, je suis bien d'accord, super. Alors moi, j'ai eu l'impression que c'était un projet quand même de longue date que vous aviez tous les deux, ou en tout cas peut-être plus toi qu'Alexandre, je ne sais pas si c'était plus dans ton état d'esprit, dans un coin de ta tête.
En fait, c'est un projet commun qu'on avait quand on s'est rencontrés, et on n'était pas encore ensemble d'ailleurs, on en parlait, qu'on avait chacun de notre côté ce souhait-là d'un jour pouvoir acquérir une belle maison pour recevoir. Et pour faire des chambres d'hôtes, parce que ça va aussi ensemble, parce que voilà, pour être honnête, on n'aurait jamais pu acheter cette maison-là sans un projet professionnel non plus derrière, comme beaucoup aussi, je pense. Donc, c'est vrai qu'on avait ce projet-là en tête depuis un moment. Maintenant, il y a toujours un moment où on est prêt ou pas à se lancer. Et moi, j'avais besoin d'avoir cette expérience sur les bateaux parce que clairement, c'est là où j'ai été formée aussi en hôtellerie, parce que c'est pas les études que j'ai fait de base. Et puis après, j'ai eu cette étape-là où je suis sortie des bateaux pour travailler donc pour Sophie. Et elle est entrepreneur, en fait. Elle a lancé sa boîte, elle loue les bateaux, ce qui est quand même un sacré budget aussi. Donc, j'ai vu tout ce côté-là entrepreneuriat avec elle et ça m'a donné la force de me lancer. Il y a eu le Covid aussi qui a joué un petit peu dans tout ça. Mais voilà.
Parce qu'effectivement, vous avez commencé à l'étape des visites, on va dire, à l'été 2020, si je ne me trompe pas. Et qu'est-ce qui a été le déclic ? C'est justement le Covid, c'était un peu avant. Non, c'était en plein Covid alors en fait.
C'est ça en fait. Bon, en travaillant dans le milieu de la croisière, tout a été stoppé.
Et ouais.
C'est vrai que c'était un petit peu compliqué au travail. On avait toujours du travail parce qu'il fallait gérer tous les dossiers clients qui étaient en cours. Voilà, je suis tombée enceinte aussi à ce moment-là. On habitait à Marseille, une ville que j'aime beaucoup, mais ça, au quotidien, c'était pas une ville pour moi, on va dire. Je me sentais pas hyper à l'aise. Voilà, j'ai eu du mal un peu à me créer mon petit réseau. Donc, c'est vrai que c'était... on avait quand même de la famille là-bas, donc on n'était pas seuls. Mais voilà, en tombant enceinte, plus le Covid, j'ai eu le besoin, l'envie de revenir un peu plus vers chez moi, vers la Bretagne, qu'Alexandre affectionnait aussi beaucoup. Donc, il y a eu ce premier critère. Enfin, voilà, on s'est dit... on aimerait bien aller vers la Bretagne. En plus, ce projet-là, on voulait vraiment le faire dans le sud. Il y a déjà beaucoup de belles maisons d'hôtes on va dire, chose qu'en Bretagne, il y avait un peu moins. Et voilà, après, au niveau budget immobilier aussi, c'est vrai que c'était plus intéressant pour nous en Bretagne.
Oui, tu l'as ressenti qu'il y avait quand même un écart au niveau des prix, justement, à l'achat entre le sud et le Finistère.
Rien à voir. C'est vrai que la côte, toute la côte de la Bretagne, Finistère en fait partie, ça monte. Il y a de plus en plus de touristes aussi par ici, surtout l'été. Donc les prix aussi commencent à
s'envoler.
À monter, mais rien à voir avec le sud. Donc c'est vrai que voilà, on a commencé à chercher sans se mettre la pression en fait. On voyait des biens qui nous intéressaient, donc on se disait bon, allez, on va visiter, on va voir, tout en sachant que on cherchait pas du tout à Roscoff à la base. En fait, on cherchait quelque chose de plus grand qu'ici, parce qu'on voulait potentiellement pouvoir accueillir des mariages.
D'accord.
On cherchait plus quelque chose à la campagne, mais pas loin de la mer. Quelque chose à refaire entièrement pour pouvoir vraiment y mettre notre âme, on va dire, ce qu'on aime. Et donc, on a visité plusieurs choses et ça se faisait pas. Et l'entrepreneur qui nous accompagnait à chaque fois pour nous faire le devis des travaux, trois fois, m'a dit « Écoute, Juliette, il y a une maison à Roscoff, je pense que ça pourrait être bien pour vous. Le terrain fait 500 mètres carrés. » Et là, je lui disais c'est beaucoup trop petit. On ne pourra jamais faire d'événement là-bas. » Et deux, trois fois, il me dit « Ça serait quand même bien que vous passiez voir. » Et donc, au bout d'un moment, je dis « Bon, on va quand même y aller. » Je regarde d'abord sur Google Maps, il me donne l'adresse. Et là, je vois la maison qu'en fait, je connaissais depuis toute petite. Parce que j'allais à la plage au bout de la rue. Et quand on revenait de la plage, il y a un stop, en fait. Et au stop, il y a la maison devant. Et petite, je me disais, on dirait une maison hantée. Elle était toute grise, le portail, un grand portail noir devant, mais qui était tout rouillé, cassé. Les volets aussi. C'était pas vrai. Le jardin, pas entretenu non plus. Donc voilà, c'est marrant parce que moi, j'avais ce souvenir-là de cette maison. Et donc, finalement, on l'a visité. Et puis, on a revu tout notre projet, en fait.
Coup de cœur immédiat.
Ça change. C'était pas du tout le même projet. Pas le même budget non plus, parce que Roscoff, on est vraiment là sur une petite station balnéaire. Donc, c'est pas les mêmes prix qu'à la campagne non plus. Donc, il y avait tout ça. Enfin, fallait reprendre de zéro, en fait.
Quoi. Ouais. À cette période-là, est-ce que vous aviez déjà vu un banquier pour lui parler du projet, pour connaître éventuellement votre capacité d'emprunt, etc. Ou tu n'avais pas encore fait ce type de démarche ?
Si, en fait, on avait déjà commencé, on avait pris un rendez-vous, on avait présenté un premier projet sur une maison en fait, qu'on avait visitée, pour laquelle on avait fait une offre d'ailleurs, qui n'avait pas donné suite parce qu'après, au niveau de la charge de travaux, c'était trop, trop important au vu du budget du bien à l'achat. Donc, on avait déjà vu un banquier, mais c'est vrai que là, les budgets changeaient de nouveau. Après, je pense qu'en fait, le budget dépend aussi du projet professionnel qu'il y a derrière. Là, en achetant à Roscoff, qui est une petite station balnéaire montante, on va dire, il y a de plus en plus de monde l'été. On a les bateaux de la Brittany Ferries qui font les allers-retours entre... Roscoff, l'Angleterre, l'Irlande et un petit peu l'Espagne. Donc, on avait au niveau du remplissage, on va dire, des chambres d'hôtes, c'était plus facile, même pour se faire connaître, que qu'en étant à la campagne. Donc, tout ça a joué aussi au niveau de la banque, en fait. Donc, on a. Moi, j'ai fait mon premier petit plan de financement, en fait, toute seule. On s'est représenté à la banque. Ils nous ont donné un avis plutôt favorable. Ils nous ont conseillé quand même de voir un comptable pour faire vraiment quelque chose de carré pour qu'ensuite le dossier puisse être accepté.
Super. Et donc, après, avec un comptable, tu as plutôt affiné ton prévisionnel pour être au plus près d'une projection réelle, j'imagine. Tu avais déjà le montant que représentaient les travaux ?
Oui, qui a été explosé comme souvent.
Comme tout le monde.
Oui, on avait déjà En fait, pour chaque projet qu'on avait, on venait avec un entrepreneur sur les lieux parce qu'on sait que, enfin, nous, on était incapables, en fait, de chiffrer exactement à combien ça allait nous revenir. Et on voulait que tout soit fait tout de suite. Donc déjà, le budget était plus important. Nous, on a fait tout ce qui était démolition. Donc ça, c'était vraiment notre partie. Mais après, c'est vrai qu'il fallait refaire tout l'électricité, la plomberie. La maison était assez bien distribuée, mais au final, il fallait quand même casser certaines cloisons pour les refaire. Voilà. Et ce qui était très important pour nous, c'était vraiment d'assainir au maximum la maison aussi. Donc voilà. Puis de toute façon, on a eu la mérule, qui est un champignon.
Ah, merde, ouais. Voilà.
C'est présent en Bretagne, c'était pas prévu, donc pour le coup, on a vraiment dû tout mettre à nu pour refaire derrière.
D'accord. Donc le budget a été plus élevé en travaux qu'en achats ?
50-50 en fait, à peu près.
Ouais.
Ouais, 50-50.
D'accord. Et dans votre prévisionnel, ou en tout cas quand vous avez montré le projet à la banque, est-ce que vous gardiez vos emplois ? Est-ce que ça a joué ? Ou est-ce que vraiment vous étiez que sur l'activité va payer l'échéance des emprunts, va couvrir les travaux, etc.
Non, c'était prévu qu'Alexandre garde son travail, et ce qui était très, très important pour nous aussi au niveau sécurité financière. On ne se voyait pas se mettre tous les deux... dans l'activité, c'est surtout sur un démarrage. Enfin, elle n'existait pas. Enfin, on n'a pas repris une activité, on l'a créée, donc c'est vrai qu'on n'avait pas le recul. Donc non, c'était quand même très très important qu'il y ait un ou deux qui garde son travail. Moi, en fait, typiquement, j'ai pas repris après mon congé maternité, donc j'ai arrêté de travailler. Au mois de septembre, et en fait on a déménagé après en Bretagne au mois de février, et on a acheté la maison au mois d'avril. Donc voilà, tout ce temps-là, entre m'occuper de la petite, je travaillais sur le projet.
Et alors justement, l'arrivée d'Olivia, ça te faisait pas peur de se lancer en plus dans cette aventure, d'assumer les travaux, de suivre, etc. Et peut-être que... Ah oui, non, j'allais dire, peut-être qu'Alexandre était encore beaucoup à Marseille à ce moment-là, alors que peut-être je me trompe, mais c'est beaucoup de changements en une fois.
En fait, je pense qu'on ne se rendait pas vraiment compte de l'ampleur qu'avait tout ça. D'ailleurs, quand on a acheté, enfin, quand on a signé le compromis avec notre notaire, c'est notre notaire de Marseille, il nous a dit, mais vous êtes sûr quand même que ça fait pas beaucoup, tout ça? Et nous, non, pourquoi? Et en fait, c'est vrai qu'il y a des moments où ça a été un peu difficile parce qu'on faisait pas des vraies nuits non plus, que Alexandre travaillait la semaine, mais tous les week-ends, on était sur le chantier à casser... à ramasser, et puis la maison, on l'a achetée, elle n'était pas vide. Il y avait beaucoup de meubles, D'ailleurs, ça, c'est un conseil à donner, c'est que si quelqu'un achète comme ça une maison ancienne avec plein de choses dedans, négocier en fait à l'achat pour qu'elle soit vidée, quoi, parce qu'on a perdu énormément de temps avec tout ça aussi.
Mais c'est quoi l'histoire de cette maison alors ? Si toi-même déjà petite, tu la voyais abandonnée en quelque sorte, inoccupée ?
Bah en fait, ça a été une maison de famille pendant longtemps, et la dernière propriétaire habitait seule, donc elle habitait le rez-de-chaussée, et elle avait créé en fait des appartements dans la maison. Donc il y avait déjà dans certaines pièces une cuisine et une salle de bain. En fait, il y avait quatre studio, on va dire, plus dans la dépendance aussi, deux petits studios, mais c'était vraiment dans son jus. Et puis là, ça faisait pratiquement un an qu'elle avait plus loué, plus trop chauffé non plus, donc ça s'était quand même dégradé. Et puis c'était un petit peu du bricolage, quoi. Donc voilà, et c'est vrai que la dame qui habitait avant était assez âgée, et je pense qu'elle a vendu, parce qu'en fait entre elle et nous, il y a eu un promoteur immobilier. Si tu veux, c'est un promoteur qui a racheté la maison avec son terrain, et il a redivisé. Donc sur le terrain, il a fait une résidence avec des appartements, et après il a revendu la maison à part.
Ah, d'accord.
Et donc, je pense que ce promoteur-là a acheté la maison voilà, dans l'État et l'a revendue, après nous a revendu dans l'État aussi.
Ouais, lui, il n'y a pas touché. Et vous avez trouvé facilement des... Bah, tu parlais d'un entrepreneur ou quoi, des artisans et l'équipe que tu voulais faire bosser dessus, parce qu'en étant à Marseille, tu connaissais déjà un petit peu, tu avais un réseau du coup sur Roscoff.
En fait, j'avais... moi, j'ai un réseau, j'avais déjà un réseau par ici parce que j'ai grandi ici, voilà, et j'ai entendu dire qu'une de mes connaissances avait monté sa boîte. Donc, je l'ai contacté en fait assez tôt parce que on a eu plusieurs projets en fait, on a fait plusieurs
scénarios.
Voilà, c'est ça. Et il nous accompagnait à chaque fois. Et d'ailleurs, c'est lui qui nous a voilà lancé sur la piste de cette maison. Donc après, ça me paraissait assez logique quand même de le faire travailler. Donc, il nous a fait un devis. C'est une entreprise de travaux généraux. Donc, après, c'est lui qui a cherché le plombier, l'électricien, tout ça. On a travaillé ensemble, en fait. Donc, après, nous, c'est vrai que tout ce qui est choix de matériaux, le plancher, le carrelage, tout ce qui est interrupteur, ça, on fournissait nous. Parce qu'il n'y avait pas forcément ça dans la gamme qu'ils pouvaient nous proposer. Donc, on fournissait le matériel. Et après, c'est eux qui travaillaient. Mais c'est vrai que ça s'est quand même plutôt bien passé parce qu'on avait, bon, je pense déjà parce qu'on se connaissait, donc c'était plus facile. On se faisait confiance. Après, comme toute entreprise de travaux, il faut leur courir après. Ça, il n'y a pas de... Il n'y a pas de secret, c'est comme ça que ça se passe. Et moi, j'avais arrêté mon travail. Donc, dès que j'ai pu, en fait, j'étais sur le chantier.
Ouais.
Donc, Olivia était gardée pas très loin de la maison. Donc, en fait, on faisait la route toutes les deux le matin. Je la déposais chez la nounou et moi, je venais à la maison toute la journée. Donc, je m'étais fait mon petit bureau dans un des studios. Donc, j'étais avec mon gilet, mon manteau dans le froid. Mais j'étais là et c'est-à-dire que dès que les ouvriers avaient des questions, ils venaient me voir et on avançait plus vite comme ça. Et je vois pas comment on aurait pu faire autrement parce que même en étant là parfois, voilà, il y a des choses qui ont été faites et défaites et refaites parce que j'étais pas passée au bon moment et qu'ils avaient commencé à faire quelque chose qui allait pas, quoi. C'est vrai que comme on avait une bonne relation, ça se passait bien, donc même quand on avait quelque chose à redire, enfin, ça se passait quand même, voilà, très bien. Après, voilà, quand ils étaient pas là à 8 heures le matin, j'appelais, bonjour, ouais, bonjour. Ah oui, aujourd'hui on a un dépannage à faire. Oui, d'accord, mais ici c'est très urgent aussi.
Ouais, il faut les harceler. Vous vous étiez donné combien de temps, justement, de travaux avant ouverture? Est-ce que tu t'étais fixé une date? Bon, ben là, on ouvre tel pour le printemps 2022 ou quelque chose comme ça?
En fait, je leur ai demandé une estimation parce que moi j'avais pas trop notion non plus de combien de temps ça pouvait prendre. Et on m'a dit, oh, 6 mois, ça devrait le faire. Donc, en fait, moi, j'ai planifié une ouverture décembre 2021. Je me suis dit, juste avant Noël, ça peut être chouette. Donc, j'ai calé toutes les livraisons des meubles, tout ça, pour octobre-novembre. La communication, parce qu'on a commencé assez tôt, j'avais tout calé, ouverture fin d'année 2021. Et arrivé en novembre, je voyais l'état de la maison et là, je me suis dit, mais ça va pas le faire du tout, quoi. Donc, on a harcelé. Après, bon, on a eu des soucis au niveau des matériaux, parce qu'il y avait quand même suite de crise de Covid, tout ce qui était bois, c'était compliqué à avoir. On a eu 4 mois de retard sur les menuiseries, par exemple. Et sans les menuiseries, ils pouvaient pas faire le placo autour, tout ça, donc pas de peinture, enfin tout.
Découler de, ouais, à chaque fois, ouais. S'il y a un corps de métier qui est bloqué, le reste n'avance pas non plus, quoi.
Voilà. Donc, par contre, j'ai reçu tous les meubles, tout le linge, tout ça en novembre.
Tu pouvais stocker dans la maison ou c'était problématique?
C'était problématique, donc ça a été baladé en fait.
Ouais, il fallait à chaque fois que tu redéplaces d'une pièce à une autre pour que ça reste le plus protégé possible.
J'ai réussi à décaler certaines livraisons. Je pourrais plus te dire quoi d'ailleurs, mais je sais que j'ai réussi à décaler un petit peu. Mais par contre, j'avais des grosses pièces au milieu, quoi. Donc les ouvriers n'étaient pas contents, mais bon, après, moi, je leur ai dit, ah, je suis désolée, moi, on m'a dit 6 mois de chantier, j'ai calé tout pour pouvoir avoir les choses à temps. Maintenant, on va faire avec, hein. Donc,
Au final, ça a
ça...
pris le double.
Ah, ça a pris le double. Ouais, on a fini, on va dire en mai. En fait, on avait une deadline parce que nous, on était assez présents sur Instagram déjà et j'avais eu une demande de privatisation de la maison pour fin mai. Donc, bah, j'avais pas le choix, j'ai accepté. Et, donc voilà, c'était vraiment notre deadline. Il faut que fin mai, la maison soit finie. Après, il y avait les studios donc, qui étaient censés être prêts d'abord, mais du coup, je les ai mis de côté et on s'est vraiment concentré sur la maison.
D'accord.
Voilà. Il fallait que notre espace à nous soit prêt aussi parce que bah, fallait qu'on puisse habiter là pour, bah, pour les petits déjeuners, tout ça, quoi. Donc ça l'a fait. On était prêts 5 minutes avant que les clients arrivent. Voilà.
Oui, ça c'est pareil. Je crois que c'est tout le monde pareil. Moi, je me revois à balancer tout dans le coffre de la voiture, mais sans plus rien trier, histoire de juste camoufler tout. Tout ce qu'on avait comme bazar, et vraiment, littéralement 5 minutes après, il y a la voiture des locataires qui arrivait, quoi. C'était ouais. Et donc, votre partie privative, elle fait partie de de l'ensemble de la maison, quoi, de la grande partie où vous avez une petite dépendance.
Alors nous, on habite au rez-de-chaussée de la maison.
D'accord.
Et c'est vrai que on avait quand même ce critère-là, on voulait avoir notre espace privé. C'était important pour nous et on trouvait ça important aussi même pour les personnes qui séjournaient là, pour pas être obligées de passer au milieu de notre salon pour accéder à leur chambre. Donc c'est vrai que quand on a visité la maison, on a vu qu'il y avait une entrée à l'arrière qui menait directement à l'escalier pour les étages. Et donc, voilà, on a vraiment séparé en deux. On a notre espace, donc au rez-de-chaussée à nous. Et puis, il y a une entrée à l'arrière de la maison, pour les personnes qui viennent séjourner chez nous.
Est-ce que ça a été facile de te projeter, de te dire, bon, ben, on va faire 4 chambres, on va faire les 2 studios à côté? Est-ce que ça, c'est l'architecte qui t'a plus aiguillé ou toi, tu te projetais très facilement dans la maison?
Alors, on n'a pas eu d'architecte.
Ah oui, pardon, je
Donc, on
voulais dire
avait.
le maître d'œuvre.
Oui, mais tu fais bien parce qu'ils nous ont quand même beaucoup aidés, comme ils nous ont fait en fait les plans initiaux de la maison, on va dire. Ça nous a aidés, nous, après, à pouvoir faire nos petits dessins et se projeter. Après, c'est vrai qu'elle était quand même déjà assez bien distribuée. On a modifié certaines choses, mais voilà, il y avait déjà il y avait quatre suites, on va dire. Nous, on a gardé une des suites pour en faire la salle des petits déjeuners. Et après, on a divisé une des suites en deux. Voilà. Donc, ce qui fait qu'on a 4 chambres et qui sont vraiment toutes différentes et avec des superficies différentes aussi. Donc, ça, c'est vraiment pas quelque chose qui nous a bloqué. C'est vrai En fait, on adore ça. On avait déjà rénové un appartement à Marseille qui était pareil dans son jus. On avait beaucoup aimé en fait se projeter, faire des petits plans, mettre nos idées par-ci, par-là. Donc, on a fait notre projet comme ça. Et après, par contre, pour tout ce qui était contraintes techniques, on s'est dirigé vers l'entrepreneur pour qu'il nous aide voilà, à trouver des solutions.
Pour la déco, pour bah justement le choix du mobilier, est-ce que c'est beaucoup d'heures sur Internet? Est-ce que c'est des inspirations que tu gardais dans un cahier secret depuis des années à arracher les pages de magazines? Comment tu as fait pour savoir comment tu voulais décorer et aménager la maison?
Beaucoup d'heures sur Pinterest.
Pinterest est notre ami.
Ouais, à faire des petits dossiers par chambre. Et puis après, en fait, j'ai cherché ouais, plusieurs marques avec qui éventuellement on pourrait travailler. Et en fait, je suis allée dans un magasin de déco un jour et j'ai vu une lampe que je trouvais très sympa. J'ai regardé la marque et je me suis dit, bon, je vais les appeler. Et en fait, je les ai appelés et je leur ai demandé s'ils travaillaient avec des hébergeurs, en fait, tout simplement. Et ils m'ont dit oui. Donc, on a creusé un petit peu plus tout ça. Je leur ai demandé de m'envoyer le catalogue. Et en fait, il y avait beaucoup, beaucoup de pièces que j'aimais chez eux. On est allé au showroom aussi. Donc, la marque, c'est Atesa. On est allé sur leur showroom à Uzès. Et puis, on a fait notre petit choix là-bas. Donc, ce qui nous a permis, en fait, d'accéder aux tarifs professionnels. Donc, c'était super intéressant. Et en fait, l'agent de cette marque-là avait d'autres marques, dont une marque de linge de maison, Vent du Sud, avec qui on a travaillé aussi. Et voilà, et dernièrement, j'ai travaillé avec une autre de leurs marques pour tout ce qui était décoration de Noël aussi.
D'accord, super. Et ils t'ont fourni la literie aussi ou ça, t'as fait appel à un autre fournisseur ?
Non, la literie, c'est autre chose. La literie, c'est Literie Valentin, c'est en Bretagne. J'ai cherché voilà, à rester quand même quand je pouvais en local. Et voilà, c'est literie voilà, qui est très, très bien. Donc, pareil, je suis allée sur leur showroom à Quimper pour essayer les différents matelas. Et puis, eux m'ont conseillé, en fait. Et puis, on est parti sur ce que prenaient aussi les hôtels. Donc, voilà, literie.
Super. Et donc, pour le linge salle de bain, plutôt toilette, c'est Vent du Sud aussi ? C'est aussi bien le linge de lit que le linge des salles de bain ?
Oui, on a fait donc linge de lit, linge de bain, tout ce qui est aussi serviette de plage, peignoir, voilà.
Et peut-être pour la cuisine aussi, pour les petits déjeuners, serviettes.
Oui, tout à fait. Oui, tout ce qui est chemin de table, serviettes, torchons, même. C'était aussi simple pour moi en fait d'avoir un seul fournisseur, sachant que c'était des produits qui me plaisaient aussi. Donc on est parti là-dessus. Voilà, et en fait, ce que je voulais développer à la base, qu'on fait un petit peu aussi, c'est maison boutique. Donc,
oui.
La plupart du mobilier peut être soit acheté sur place, soit commandé pour les grosses pièces. Et pareil pour le linge de maison. Alors ça, je n'ai pas encore mis en place. Là, je suis en train justement de travailler sur tout ça pour pouvoir éventuellement commander... le linge Vent du Sud pour.
Mais alors concrètement, comment ça se fait ? La maison est un peu comme un showroom, du coup, si je séjourne, que je craque sur un meuble ou autre et que je veux repartir avec. Donc tu le dis, soit certaines pièces peut-être que je peux repartir avec sous le bras, d'autres faut commander. Mais toi, tu es quoi ? Un apporteur d'affaires pour Atesa ou alors carrément tu commercialises en direct ?
Revendeur en fait.
Revendeur.
Donc j'ai tout ce qui va être vase, petit tabouret, table de nuit, c'est arrivé aussi. Voilà, éventuellement les autres peuvent repartir avec. Après, tout ce qui va être table, chaise, voilà, comme c'est des plus grosses pièces et que j'en ai besoin pour l'exploitation, ça c'est sur commande. Voilà, mais c'est vrai que pour l'instant, j'ai pas pris vraiment le temps de bien indiquer tout ça, même dans les chambres. Donc, voilà. C'est des choses, je voulais que tout soit en place pour l'ouverture, mais bon, on fait par étapes.
Mais oui, et en termes de comptabilité, ça veut dire que tu déclares ce genre de vente différemment sur un autre statut que le statut de la chambre d'hôte ? Parce que j'imagine que c'est peut-être pas la même... juridiquement ou légalement, c'est pas tout à fait pareil.
En fait, quand j'ai créé l'entreprise, nous on est en entreprise individuelle ici.
Ouais.
J'ai demandé au comptable comment je pouvais le faire, et donc j'ai le statut d'hébergeur et vente annexe. Donc je peux faire des ventes comme ça. Et après, dans le logiciel de facturation, je note. L'article.
Oui, ça, après, c'est des lignes, c'est différent. Le produit, soit c'est de l'hébergement, soit c'est de la vente. Ok,
exactement.
Génial. Ah, super. D'accord, je ne savais pas. Effectivement, tu rajoutes l'activité sur ton objet social directement et tu peux dispatcher comme ça selon les différentes prestations. Alors, est-ce que tu es toujours accompagnée par un expert comptable aujourd'hui encore pour l'activité et puis pour son développement ?
Oui. Alors, ça, c'est une des choses sur ma liste de 2023. et m'intéresser un petit peu plus à la comptabilité parce que c'est vraiment pas mon domaine. Donc, c'est vrai que jusque-là, en plus, on était vraiment à fond dans l'ouverture, tout ça. Et en fait, j'envoyais les documents qu'on me demandait et puis c'est tout. Donc là, il va falloir vraiment plus se caler un petit peu sur tout ça parce que c'est pas la partie que je maîtrise le plus, on va dire.
Oui, ne serait-ce que pour connaître un peu les bases et pouvoir toi-même analyser si la rentabilité est celle qui était projetée, si éventuellement c'est encore mieux et que tu peux dégager un salaire ou des prestations, etc. comme ça. Est-ce qu'actuellement, tu peux te rémunérer grâce à l'activité ?
J'ai commencé au mois de novembre.
Génial !
Un petit peu. Tu vois, 100 euros par mois. Ce qui est très chouette. On a quand même très bien démarré. On a fait une belle saison. C'est vrai qu'on ne s'attendait pas à ça. Donc, c'était une très belle surprise. Et là, sur la suite, on a bien travaillé jusqu'à novembre. Et là, maintenant, c'est la période quand même plus calme. Donc, en semaine, ça reste calme. Et on travaille quand même très bien le week-end. Donc, voilà, c'est vrai que sur notre communication, notamment sur Instagram, on a essayé de communiquer en fait en local, ce qui fait qu'on a pas mal de locaux qui viennent là le week-end pour découvrir la maison.
Trop bien.
Donc on est content. Donc c'est vrai qu'au mois de novembre, je me suis dit allez.
Bah c'est super parce que c'est, je pense que c'est très tôt. Par rapport à d'autres projets, en plus avec cette envergure-là de travaux, d'aménagement, etc. Donc, c'est hyper positif. Félicitations. Et effectivement, ça montre que vous aviez hyper bien anticipé et le succès et la réussite du projet. Donc, vraiment, c'est un très beau démarrage, un très bel exemple. Instagram, moi, j'ai l'impression que ça a quand même assez d'importance, justement, dans le développement et dans la notoriété que vous avez développée parce que le compte n'est pas si vieux. Tu dis que tu l'as ouvert au moment des travaux, au tout début en fait, et ce qui n'est pas non plus 3 ans en arrière. Tu as déjà 6347 abonnés pour être précise. Comment tu as fait ? Est-ce que déjà c'était un plaisir ? Est-ce que pour toi c'était une évidence de te lancer sur les réseaux sociaux pour communiquer sur le projet et commencer à développer la notoriété ? Ou est-ce que tu as dû tout apprendre sur le tas ?
Un peu des deux. Ça faisait partie du plan de communication que j'avais prévu en fait, même quand on a présenté notre projet à la banque, on a présenté donc le plan de financement, mais j'avais fait toute une présentation aussi du projet avec un mood board aussi avec des images de Pinterest que j'avais piquées à droite à gauche pour montrer l'ambiance qu'on voulait donner à la maison. Et il y avait aussi une partie justement communication, site internet, et j'avais noté effectivement Instagram et je me suis remis il n'y a pas si longtemps dessus et j'avais noté voilà début Instagram pour le début des travaux. C'est vrai que on a lancé tout ça assez tôt. Ce que je voulais tout d'abord, c'est avoir un logo. Donc c'est pareil, le logo, on l'a. À partir du moment où on a acheté la maison, j'ai tout de suite lancé
la création.
La création de charte graphique. Et puis ensuite, Instagram est venu, voilà, au moment des travaux. Pour moi, un peu trop tard, parce que en fait, je l'ai lancé. On avait déjà commencé la démolition. J'aurais voulu commencer avant, mais bon, c'est quand même arrivé assez tôt. Parce que moi, par exemple, j'étais intéressée par tout ce qui était compte de rénovation. Donc, je me suis dit, ça peut-être intéresser certains. Et puis, ça raconte vraiment l'histoire en fait du début. Donc, c'est vrai qu'on l'a lancé comme ça. Ça a pris un petit peu, en fait, localement, parce que c'est une maison qui était connue quand même à Roscoff. Donc, ça a intéressé quelques-uns. Et puis après, les amis, la famille, tout le monde a relayé. Et donc, voilà, on avait une petite communauté. Après, j'ai travaillé, on va dire, sur Instagram. Où j'ai fait, il y a des soirées où j'ai fait beaucoup de likes pour aller en fait chercher
le chaland
des personnes.
Oui.
Peut-être intéressés sur les hashtags chambre d'hôte, après sur la localisation Roscoff, sur la localisation Bretagne. Voilà, et c'est... ça a monté comme ça. Je ne sais pas combien d'abonnés on avait quand on a ouvert. Je pense qu'on était autour de 800 000 peut-être quand on a ouvert. Et puis après on a invité quelques créatrices de contenu, influenceuses, et ce qui a fait que ça a fait monter aussi.
Ah super. C'est, tu dirais que c'est que ça peut peut-être faire partie d'un déclic, c'est qu'après avoir voilà, fait intervenir des influenceurs créateurs de contenu, ça a plus augmenté en termes de visibilité. Oui. Est-ce que tu veux bien nous les citer ou
Oui, oui, bien sûr. Alors, notamment, on a eu Adeline. Son pseudo, c'est Adou BN. Et elle est de Brest, enfin, des environs. Et en fait, elle nous suivait. Alors, comment... Ou alors, c'est moi qui... Alors, je crois que je la suivais. J'ai commenté quelque chose, une story ou une photo. Et elle m'a écrit en retour en me disant que la maison avait l'air... super jolie, et donc j'ai enchaîné en lui proposant est-ce que ça te dirait de venir passer un séjour à La Brise, et elle a accepté. Donc à la suite de ça, on a fait un concours avec elle, et en fait on a gagné plus de 2000 abonnés, je crois.
Ah ouais. Et l'échange, c'était elle venait gratuitement. En échange, si elle le souhaitait ou pas, elle partageait son expérience et elle faisait quelques photos, etc. Ou vous aviez carrément convenu d'une rémunération ou en tout cas d'un certain nombre de stories, de posts, etc.
Alors, on n'a rien convenu parce que je voulais que ce soit vraiment naturel. Donc, par contre, l'échange, c'était qu'on l'invitait 2 jours, 2 nuits, ici. Et après, c'était à elle de communiquer et de partager ce qu'elle avait apprécié ici. Elle a vraiment joué le jeu. Et puis, l'échange a été vraiment super. Donc du coup, je lui ai proposé de faire un concours après, à la suite de sa venue. Donc, voilà. Ensuite, il y a eu Florian Léost, c'est Florian LT sur Instagram, qui est venu aussi, je crois que c'était août ou septembre. Et voilà, ça, pareil, ça a très très bien marché. Et c'est vrai que c'est chouette parce que c'est des chouettes échanges aussi avec eux, quoi. Donc non, ça a contribué beaucoup à la visibilité, notamment voilà, aux alentours. Et c'est ce que je voulais parce que je savais que pour l'hiver, ce serait plus difficile de remplir parce que c'est forcément moins touristique en hiver par ici. Et je vois, hein, là, le week-end, c'est souvent des personnes en fait qui nous ont découvert sur Instagram, qui viennent pour découvrir la maison et qui viennent pour découvrir Roscoff. Voilà.
Et t'as des raisins en direct depuis en MP ou c'est juste que les gens après passent par ton site mais te disent une fois qu'ils sont sur place, ben on vous a connu via le compte Instagram.
Alors les deux, des fois ils m'écrivent directement, donc je prends les réservations, ou alors ils réservent sur le site et c'est le matin au petit déjeuner en discutant qu'ils nous disent ah ben on vous avait vu sur le compte d'Adeline ou de Floriane. Voilà. Et même le fait alors qu'Adeline ou Floriane viennent a fait que certains influenceurs sont venus d'eux-mêmes aussi et qui ont joué le jeu de partager aussi, qui n'étaient pas invités pour le coup, mais et voilà, donc c'est vrai que non, ça marche bien. Et moi j'étais pas du tout je savais que ça pouvait fonctionner Instagram, mais j'utilisais pas en fait avant d'avoir le compte de La Brise, ou très peu. En tout cas, moi, je partageais pas de photos. Donc, c'est vrai que quand on a démarré, je savais pas trop comment faire. Donc, c'était un peu à tâtons. Je postais par-ci, par-là, des choses que je pensais qui pouvaient peut-être intéresser. Et puis après, bon, quand j'ai vu que ça prenait, là, j'ai fait appel à un photographe. Donc, j'avais besoin de lui déjà pour notre site internet, Yves, qui est sur Roscoff et qui est devenu un ami aussi maintenant. Et en fait, on a calé, donc tous les mois, on travaille ensemble, on fait un shooting par mois. sur des thèmes différents.
Génial, ça c'est super. J'en parlais avec des porteurs de projets hier en leur disant que voilà, si le budget, si les contacts leur permettaient d'avoir quelqu'un qui habite pas loin, un photographe qu'ils apprécient, et de faire quelque chose qui soit récurrent pour justement faire vivre la maison au fil des saisons aussi, parce que souvent bon, il y a un shooting, un gros en été, et puis c'est tout, il n'y a plus rien après. Donc là, je trouve ça vraiment formidable de pouvoir mettre en place ce type de partenariat où... Oui, on voit vraiment la maison évoluer au cours du temps.
Non, mais c'est vrai que c'est chouette parce qu'en plus, voilà, par exemple, hier, on a fait un shooting à la plage. Donc, tous les trois, pour le coup, avec Alexandre et Olivia, parce qu'on ne se montre pas trop. Mais on s'est dit, oui. Bon, allez. Et puis, montrer aussi les choses qu'on peut faire en extérieur, même en hiver ici, parce que c'est vrai qu'on se dit, ben, on ne va pas venir en Bretagne en hiver parce qu'il pleut, parce qu'il n'y a rien à faire. Et en fait, ben, typiquement, là, on a des belles journées. Et ben, on va se balader, on prend le grand air, les plages sont magnifiques. Donc, il y a quand même des choses à faire. Et pour les enfants, c'est chouette aussi. Donc,
Alors, j'ai vu aussi que tu travaillais avec un PMS qui s'appelle Réservite. Ça aussi, est-ce que tu avais fait un petit comparatif? Est-ce que tu en as testé d'autres?
Alors, pas du tout. En fait, via Instagram, j'ai eu la chance de rencontrer Agnès, qui avait des chambres d'hôtes pas très loin, à Plougoulm. Et on s'est rencontrés après, donc elle m'a invitée chez elle, on a beaucoup discuté. Elle, ça faisait 15 ans qu'elle avait des chambres d'hôtes, donc elle était de bons conseils. Et c'est elle qui m'a dit, non mais Juliette, ne réfléchis pas, il faut que tu travailles avec un channel manager. Et donc, elle était chez Réservite, et donc j'ai appelé Réservite. Voilà, j'ai pas cherché plus loin. Et c'est vrai que c'est chouette, parce que ça nous permet d'être sur différentes plateformes, et c'est un gain de temps, je pense, énorme, parce qu'au début, moi, je pensais vraiment, j'avais acheté un gros agenda où je pourrais vraiment voilà, mettre toutes mes chambres, noter les réservations. J'avais prévu donc de prendre les réservations soit par mail, soit par téléphone, de gérer quand même les différentes plateformes, mais je savais qu'il y avait un risque d'avoir du surbooking à certains moments. Mais je m'étais dit, pour démarrer, on fait comme ça. Sauf qu'en fait, en réfléchissant, voilà, c'est vrai que ce channel manager, c'était quand même... une facilité et un gain de temps, et heureusement en fait qu'on l'a fait, parce que on a eu la chance de bien travailler cet été et on n'a pas trop vu le jour, et je pense que si j'avais eu tout ça à gérer en plus, je me serais mélangé les pinceaux. Voilà.
Je pense avoir vu que tu étais sur Booking, sur Roscoff Tourisme, j'imagine que c'est l'office de tourisme, sur chambre-hôte.fr et sur hôtel.com. Est-ce qu'il y en a d'autres que j'aurais pas repéré?
Non, c'est ça. En fait, on est sur Booking, et puis on était sur le groupe Expedia. Donc, parce que via le Channel Manager, on peut choisir différentes plateformes. Là, j'ai fait le choix d'arrêter sur Expedia. Parce que, bon, déjà, à l'ouverture, comme on a envie de remplir, on veut être visible du maximum de plateformes. Moi, j'avais coché toutes les cases, comme quoi on acceptait ceux qui avaient la carte professionnelle, tout ça. Et ce qui fait qu'en fait, nos tarifs, ils sont vraiment descendus, parce que certains, ils ont des cartes hyper avantageuses. Et donc, on perdait des fois la moitié, en fait.
Ah oui, d'accord.
Donc là, voilà, j'ai arrêté Expedia. Par contre, ce qu'on va faire, on va se mettre sur Airbnb aussi. Ce que j'ai pas fait au départ, parce qu'ils n'étaient pas encore bien calés avec le Channel Manager. Et j'avais peur d'avoir du surbooking. Donc, a priori, là, le problème est réglé. Donc, on va pouvoir rajouter Airbnb aussi à nos plateformes. Et ensuite, voilà, après, c'est sur notre site. En
fait. Et est-ce que tu es intéressée éventuellement par des plateformes plus indépendantes comme Gringo, Wego Greener, Enchki? Est-ce que ça, c'est des outils aussi qui te plairaient, ou c'est pas du tout dans les tuyaux?
Si, c'est des outils qui me plairaient. Faut que Wego Green, ça, j'avais fait la demande. Après, tu sais, ils donnent des notes en fonction de
le Green Score. Ouais.
Voilà. Chose qu'ici, on a fait le maximum vraiment pour pouvoir être au mieux, mais ça reste une maison ancienne. On a été un peu mal conseillé parce que du coup, on est tout en électrique alors qu'on aurait pu mettre une pompe à chaleur. Et ça, c'est trop tard maintenant. Donc, en fait, on était 1 sur 5 sur WeGo Green. Et donc, je me suis demandé, est-ce que ça vaut le coup vraiment ? Je n'ai pas dit non encore.
Mais tu as raison, la question se pose. Parce qu'effectivement, est-ce que ça ne porte pas plus préjudice qu'un vrai intérêt commercial ? Et Enschke ?
Alors, Enschke, c'est eux qui choisissent, en fait.
Oui, c'est Fanny qui décide.
Voilà. Donc, j'aimerais beaucoup. Maintenant, voilà, c'est eux qui choisissent. Il faut qu'ils viennent visiter l'établissement, tout ça. Donc, peut-être.
Peut-être. On verra. Excellent. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton organisation, du quotidien ? Est-ce qu'il y a une journée type ? Donc avec Alexandre qui est parfois là, parfois pas là. Il y a Olivia aussi. J'imagine que c'est toi qui t'occupes peut-être des petits déjeuners. Voilà, on veut tout savoir.
Alors journée type, on va dire quand on est complet, ça va être le matin, on se réveille vers 6h30, 7h à peu près. Les petits déjeuners, on les commence à 8h. Voilà. On fait 8h, 10h. Après, on est très flexible, c'est-à-dire parce qu'on a des personnes qui prennent les bateaux avec la Brittany Ferries, donc des fois, qui doivent partir plus tôt. Donc, quand il faut, on fait les petits déjeuners à 7h, 7h30. Donc là, on se lève plus tôt, mais la base, on va dire, c'est 8h, 10h. Donc, en fait, on est deux sur les petits déjeuners. Alexandre m'aide jusqu'à 9h. Avant qu'il commence en fait son travail. Donc voilà, on se lève, on gère les petits déjeuners, on gère Olivia aussi en parallèle, qui se réveille à peu près en même temps que nous. Et voilà, on se relaie. Moi, je suis au service des petits déjeuners. Après, c'est un buffet. Donc, on met tout en place. Le café, le thé sont à disposition aussi. Donc, ça, j'explique en fait aux autres quand je les accueille. Je leur montre la salle des petits déjeuners. Je leur explique que le petit déjeuner est de 8h à 10h le lendemain matin. On fait des œufs aussi à la demande. Donc, parfois, je suis en bas. Et s'ils arrivent et que je ne suis pas là, ils peuvent déjà commencer. Et j'arriverai de toute façon, voilà, peu de temps après. Donc, en fonction, soit c'est moi qui leur sers les boissons chaudes, soit ils se servent eux-mêmes. Donc voilà, le petit déjeuner jusqu'à 10h. Ensuite, les check-out se font à 11h, enfin jusqu'à 11h. Donc voilà, de 10h à 11h, c'est un petit peu ça, plus ranger la salle du petit déjeuner. Ensuite, quand tout le monde est parti, on enchaîne avec les chambres. Donc on est... Enfin, ça c'est moi en partie. Et après, on a quelqu'un qui nous aide un petit peu aussi maintenant, mais ça, je t'expliquerai un petit peu après. Voilà, donc jusqu'à, on va dire, en fonction du nombre de chambres à faire, on y est jusqu'à 15-16 heures. Enfin, j'y suis jusqu'à 15-16 heures et après, on gère les arrivées à partir de 16 heures. Entre-temps, il y a un peu de repassage. Alexandre gère les machines. Ça, c'est lui, c'est sa partie. Et il m'aide aussi sur tout ce qui est repassage de serviettes. Ce qui est les éponges, c'est lui qui fait. Voilà.
D'accord. Tu repasses les draps, Jenny ?
On fait tout. On fait tout sur place. Ouais. C'est pour ça que... Alors, cet été, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai une amie qui m'aidait. Donc, qui venait le matin avant de commencer son travail et qui me faisait du repassage. Et voilà. Là, j'ai vite compris que c'était compliqué de faire tout toute seule. Déjà, c'était cet été, en fait... J'ai dû prendre quelqu'un à partir du mois d'août pour m'aider. Parce que quand on était complet et que j'avais les quatre chambres plus les deux studios à refaire, c'était clairement pas possible. Donc, j'ai une étudiante en fait qui est venue m'aider cet été et qui m'a quand même soulagée. Mais c'est vrai que cet été a été quand même assez, assez dur. Donc, on était très contents parce qu'on travaillait très bien. On était vraiment chanceux de travailler comme ça. Mais voilà, j'ai pas vu le jour. Olivia, elle a eu 3 semaines de vacances, donc c'est beaucoup Alexandre qui s'en occupait. Donc la culpabilité de maman d'être là sans être là, c'était compliqué. Donc c'est vrai, il y a eu des petits moments de moins bien. Mais voilà, on était bien conscients de toute façon du projet, dans quoi on s'engageait. On savait que le premier été, ça allait être compliqué. Surtout avec le monde qu'on a eu. Donc, Après la saison, en fait, là, j'ai commencé à réfléchir un petit peu et à me dire qu'il me fallait quand même quelqu'un pour m'aider régulièrement. Donc là, j'ai trouvé quelqu'un qui vient le week-end, donc le samedi et le dimanche. Donc la semaine, je suis toute seule, sachant que là, c'est quand même assez calme. Et le week-end, elle est là pour m'aider, ce qui fait que j'ai quand même un petit peu de temps pour ma famille.
Ben oui, c'est ça, c'est important, effectivement. Oui. Ok, super. Et en termes de gestion du linge, combien t'as acheté de parures pour être sûre de pouvoir faire un roulement qui ne soit pas trop contraignant?
On a 3 par chambre, mais là, tu vois, je viens d'en recommander pour avoir un peu plus, pour avoir du stock. Et je suis déjà en train d'essayer de caler mon été, de voir comment on va travailler parce que... Voilà, pour que ce soit vraiment agréable, là, il faut vraiment que je sois aidée pour...
Oui, bien sûr. Tu fais des minimums de nuitées pour l'été?
Non, alors pas pour la maison. Mais par contre, pour les studios, j'ai changé. Parce que j'ai fait... En toute façon, voilà, c'était le premier été, on voulait remplir. J'ai fait beaucoup d'exceptions, même le studio à la nuitée parfois, parce que je me disais, il faut qu'on remplisse. Donc, j'ai loué le studio des fois à la nuitée, mais ce qui m'a demandé un travail énorme, quoi. Donc là, les studios, je les ai passés à la semaine pour l'été. Et 3 nuits minimum hors saison. Les chambres, je les laisse à la nuitée parce que on a eu quand même beaucoup de personnes, par exemple, qui font tout le nord de la Bretagne à vélo ou en voiture, mais qui s'arrêtent comme ça, à droite, à gauche. Et voilà, c'était quand même des belles rencontres et puis j'ai envie de continuer comme ça. Par contre, voilà, je serai aidée cet été avec Sandrine là qui m'aide déjà le week-end. Donc, elle va travailler un peu plus encore avec moi cet été. Et voilà. Et puis, on va caler ça pour le repassage aussi. Elle m'aidera sûrement un peu plus.
Ça, tu n'envisages pas de pouvoir déléguer justement cette partie de gestion du linge, l'entretien? Est-ce que tu n'as pas une entreprise dans les environs qui pourrait te prendre en charge l'entretien?
Je me suis renseignée. Après, c'est vrai que je trouvais les budgets énormes.
Ouais.
Ça coûtait très cher. On n'a pas non plus, enfin, on n'a que 4 chambres, quoi. C'est pas deux studios. C'est beaucoup de travail, mais après, ça coûte cher quand même.
Ouais.
Et puis, j'ai peur qu'ils m'abîment mon linge aussi, pour être honnête.
Oui, c'est vrai.
Que jamais aussi bien entretenu que par
soi-même. Ouais, je suis d'accord. En tout cas, c'est un des conseils que je donne, c'est que si on prend une option entretien par une société de blanchisserie ou autre, effectivement, faut pas choisir le super linge en lin lavé ou je ne sais quoi, parce que les produits et la façon de travailler n'est pas forcément la meilleure pour ce type-là de produits.
Ouais, donc c'est vrai que ça fait beaucoup de travail. Peut-être qu'il y a un moment où on déléguera, je sais pas, mais là en tout cas, j'ai envie d'essayer encore comme ça cet été, en changeant certaines choses, mais voilà, en gardant en interne pour le moment.
Quels sont les projets pour l'avenir?
Alors, il y a beaucoup, beaucoup de choses en tête.
Oh.
Mais voilà, là pour l'instant, c'est vrai que mais je pense que c'est pour tout le monde pareil, hein, parce que j'ai écouté d'autres personnes qui ont participé à ton podcast et je vois qu'on a toutes et tous plein d'idées en tête maintenant. Là, c'est vrai qu'on est un peu dans une période où ça a été à fond pendant 2 ans. Donc, j'ai envie de continuer à bien, bien caler tout à la brise. Là, le prochain projet, en fait, c'est d'aménager un peu plus le jardin pour faire un petit coin cocooning pour nos hôtes et continuer à bien caler ici. Après, pour la suite... On verra. On a pas mal de demandes aussi pour des locaux qui veulent venir prendre le petit déjeuner chez nous. Et malheureusement, j'ai pas la place d'accueillir en fait en dehors des personnes qui séjournent ici. Donc voilà, il y a des petites choses. Peut-être faire un partenariat avec quelqu'un pour pouvoir proposer nos petits déjeuners ailleurs.
Ouais, ça me fait penser à Tom et Léa du café Acacia, oui. qui ont lancé, tu sais, le café à côté de la maison aussi. Ouais, un petit salon de thé ou peut-être quelque chose de ce genre.
Voilà, il y a des petites idées comme ça. Ça sera peut-être plutôt des événements par-ci, par-là. Profiter. Ouais. Là, on voulait vraiment se laisser cette année-là pour voir comment ça se passait sur une année complète, hein, parce qu'on n'a pas encore fait une année complète. Donc là, on voit un petit peu les périodes creuses. Donc voilà, on se dit que peut-être la semaine fermer les chambres d'hôtes et faire autre chose, proposer des... Voilà. Mais on va réfléchir tranquillement pour l'hiver prochain, on va dire. Mais là, l'idée, c'est vraiment de continuer à bien se caler et trouver notre équilibre entre le pro, la vie de famille, pour... parce qu'on adore ce qu'on fait et je... Voilà, par contre, je sais qu'on ne veut pas refaire un été comme l'été dernier à ne pas voir le jour. Donc voilà, juste trouver le bon équilibre.
Il faut du temps de toute façon, il faut ajuster, il faut tester plusieurs organisations aussi. Mais je trouve ça super d'accepter, de prendre le temps de trouver son rythme, se dire je consolide d'abord voilà, les bases qu'on a voulu créer en premier, etc. Puis avant de m'autoriser à rêver à d'autres choses, etc. Moi, je ne suis pas du tout comme ça. Je veux toujours faire 15 000 trucs avant même d'avoir posé la première pierre. Donc, je vais essayer de prendre un peu de sagesse en toi.
Non, mais écoute, c'est tout nouveau. Hein, parce que... non, mais l'été dernier, même, on a lancé une boutique avec ma maman à Roscoff, et où moi justement j'avais aussi des pièces de décoration qui venaient de la, enfin, qui étaient aussi à la maison à vendre, et je me suis rendu compte que là c'était beaucoup d'un coup en fait. Donc il fallait que je me calme un petit peu.
Oui, mais c'est super aussi, puisque c'est ce qui est moteur, c'est toutes ces idées, toute cette envie de création. Donc en tout cas, on a hâte et on continuera à suivre et voir s'il y a des petites choses qui émergent ou pas d'ici l'année prochaine ou pas, mais dans tous les cas très inspirant. Si on regarde un petit peu dans le rétroviseur, quelles sont les principales leçons que tu retiens de ce parcours?
Je dirais que rien n'est impossible. Il y a des moments où on était vraiment face à un mur et on se disait, mais là, on va plus pouvoir avancer. Et puis finalement, en prenant du recul, en respirant un bon coup, il y a toujours des solutions qui ne sont pas toujours en face de notre nez. Mais voilà, je pense que des fois, il faut simplement prendre du recul et se dire, déjà, c'est pas dramatique ce qui arrive, et puis on va trouver une solution. Des fois, j'ai eu souvent peur, j'osais pas demander de l'aide. Et ça, c'est un conseil que je peux donner, c'est qu'il ne faut pas avoir peur, en fait, de demander de l'aide, parce que quand on est sur des projets comme ça, des fois, c'est dur de porter tout sur ses épaules, même si on est deux. Hein. Donc, pas avoir peur de demander de l'aide, et des fois j'aurais dû le faire plus tôt par exemple mais même le fait de parler des fois ça permet de dédramatiser aussi certaines situations.
Ben, on a la tête dans le guidon et, voilà. Et des fois de mettre des mots sur les mots MAUX ça fait du bien effectivement, parce qu'on prend un peu de recul et l'entourage doit aider aussi à faire relativiser, ça c'est important.
Exactement, mais je pense que c'est un processus en fait, et il faut sûrement passer par là aussi pour s'en rendre compte. Donc on a beau des fois donner des conseils, je pense qu'il faut vraiment voilà, que ça nous arrive pour pouvoir ensuite en prendre des leçons et avancer. Mais c'est vrai que j'étais d'une nature moi très très stressée il y a quelques années, et c'est rigolo parce que je pense que je devrais normalement être plus stressée maintenant que je suis à mon compte et tout ça, mais en fait non, parce que on a nous toutes les cartes en main. Après, c'est à nous de prendre les bonnes décisions et voilà. Mais pas avoir peur de ce qui peut se passer. Il faut juste y aller des fois et puis ça va bien se passer quoi.
Ouais. Est-ce qu'il y a Tu te souviens vraiment de la plus grosse difficulté à laquelle vous avez été confrontée?
Bon, il y a eu les travaux, on en a déjà parlé. C'est vrai que voilà, il y a eu des petites choses. Bah, la mairie, par exemple, qui n'était pas prévue. Bon, bah, c'est un budget en plus sur les travaux. Après, comme dans toute rénovation, voilà, il y a des choses qui ne sont pas prévues. Donc, le budget, ça en fait partie. Là, par exemple, c'est une situation où je me suis dit, mais comment on va faire on va pas s'en sortir. Et puis au final, on est allé voir la banque et puis on a demandé un prêt supplémentaire et puis c'est passé. Donc voilà, en fait, des fois, il y a des solutions. On n'ose pas aller vers certaines solutions, mais en fait, il faut quand même y aller. Et puis, hein, quelque chose que j'ai beaucoup de mal à faire, c'est établir les prix.
Ah
alors, ça, je suis revenue mais 10 000 fois dessus. Et c'est vrai que j'ai trouvé très dur de faire les prix. Parce que... Ben parce qu'on se compare forcément aux autres, mais en même temps, on n'avait pas vraiment d'égal. Donc, on se comparait à la fois aux chambres d'hôtes, à la fois aux hôtels. On a toujours peur d'être trop cher ou pas assez cher. Voilà, après, ce que je voulais pas, c'était devoir augmenter les prix après. Donc, on a essayé de trouver le prix juste. Mais c'est vrai que ça, j'ai trouvé difficile.
Ouais, je suis bien d'accord aussi. Je trouve que c'est. Et puis, on remet toujours en question, quoi. Je suis pas sûre qu'il y ait un moment où tu dises, OK, là, c'est le bon prix.
Mais non. Mais...
je pense que quelques semaines et mois après, tu remets encore en question cela, et etc. Quel est, à contrario, ton plus beau souvenir ?
Alors, un des plus beaux souvenirs, je pense que c'est le jour où on a ouvert, en fait, pour la privatisation. Pour le coup, Alexandre était en déplacement professionnel, donc j'étais toute seule, on va dire, et au final, j'étais pas du tout toute seule. J'ai tous les voisins qui sont venus m'aider à finir de préparer la maison. J'avais une ou vitre, un autre qui me passait l'aspirateur, qui m'aidait à faire les lits.
C'est quoi ces voisins de rêve ?
C'est magique. C'était c'est un très très beau souvenir. Et je leur en suis vraiment très reconnaissante parce que,
ah ouais, j'imagine.
Parce que c'était un beau moment. Et voilà. Et il y a eu aussi l'inauguration de la maison où là, on a invité en fait tous les ouvriers qui travaillaient ici avec leurs femmes aussi. Et après toute la famille, bah, tous les voisins aussi, les amis. Et ça a été vraiment un beau moment, quoi. Donc de vraiment tous se retrouver avant de commencer officiellement. L'aventure. C'est des moments là, dans l'aventure de la maison que je garde vraiment en tête parce que, après toutes les galères qu'on a pu avoir, c'était vraiment des purs moments de bonheur. Voilà.
Alors, tu nous en as déjà donné quelques-uns juste avant, mais est-ce que tu aurais d'autres conseils à donner aux personnes qui nous écoutent, qui, elles, sont en plein dans les travaux peut-être, ou qui sont au boulot, qui en ont marre, qui ont envie de donner leur démission et de se lancer?
Mais je dirais déjà de se faire confiance. Parce que si on ressent l'envie de monter un projet comme ça et qu'on sent qu'on est prêt, il faut y aller. Et vraiment s'écouter et pas forcément écouter l'entourage, parce qu'on a tendance toujours à demander l'avis à nos familles, à nos amis. Et en fait, chacun a ses envies, chacun ressent en fait...
Mais moi, je trouve que l'entourage, il projette ses propres peurs sur toi.
Oui.
Tu vois, je sais pas si c'est ça que tu veux dire, mais
exactement, c'est ça. C'est que ils vont avoir peur aussi, pour nous, parce que des fois, c'est des risques. Mais voilà, si on sent que c'est le moment, que c'est le bon endroit aussi, parce que c'est important de bien choisir son lieu aussi, je pense. Il faut y aller, voilà. Et pour le coup, bien s'entourer aussi, pas avoir peur de demander de l'aide, comme je disais tout à l'heure. Et réussir à garder du temps pour soi, c'est pas facile, voilà.
Ça.
Après, pas culpabiliser non plus quand on trouve pas assez de temps, mais par-ci par-là, essayer de se garder un petit créneau pour soi, pour souffler et pour en fait garder l'envie de mener ce projet à bien, garder la forme aussi pour pouvoir bien accueillir après. Ses hôtes, parce que je pense que c'est important d'être bien soi pour pouvoir après tout donner pour les autres.
Donc, faut recharger ses batteries pour pouvoir être à 100% après dans l'accueil et dans le service, effectivement. Aujourd'hui, quand on te demande « qu'est-ce que tu fais dans la vie, Juliette ?», qu'est-ce que tu réponds ?
Eh bien, je réponds que nous avons ouvert des chambres d'hôtes et que je m'en occupe. Voilà. L'accueil que je reçois et qu'on chouchoute, on essaye de chouchouter au mieux les personnes qui séjournent chez nous. Voilà.
Alors, On arrive à la conclusion de cet agréable échange et tu le sais, j'ai deux petites questions pour terminer. La première, c'est dans quel établissement tu aimerais séjourner le temps d'un week-end ?
Alors, il y en a beaucoup que je suis sur Instagram, mais il y en a un où j'aimerais vraiment beaucoup aller. C'est chez Céline, donc à Maison Mastro Rémy.
Ah, tu as écouté son interview ? Je l'ai interrogé.
Oui, j'ai écouté aussi son interview et c'est vrai que sa maison a l'air vraiment splendide et puis tous les petits services qu'elle met en place, tout ça, ça donne vraiment envie. Voilà, je serais vraiment curieuse de découvrir sa maison lors d'un petit séjour dans le sud.
Yes. Et ma dernière question pour finir en musique, quel titre illustre le mieux l'état d'esprit de la Brise Roscoe?
Alors c'est plus un titre qui va illustrer notre parcours, on va dire mon parcours. J'ai choisi Cœur éléphant de Frérot de la Vega. Parce que voilà, c'est des fois quand il y a des petits soucis qui arrivent, il faut juste voilà, passer au-dessus et puis avancer quoi qu'il arrive, parce qu'il y a toujours de belles choses qui arrivent ensuite.
Eh bien, c'est super, un grand merci Juliette, c'était vraiment un plaisir de découvrir ton histoire et ça donne encore plus envie de vous suivre pour continuer à vivre avec vous cette nouvelle aventure. Un dernier mot pour nos auditeurs ?
Merci beaucoup à toi Laura de m'avoir invitée, c'était vraiment un chouette échange, voilà, je suis vraiment très heureuse d'avoir pu partager ça avec toi et puis avec les auditeurs. Et puis, je conseillerais aussi ta plateforme parce que j'en aurais eu grand besoin au début. Voilà. Donc, merci beaucoup pour tout ton travail aussi parce que je pense que ça aide vraiment beaucoup, beaucoup d'hébergeurs.
Oh, c'est très gentil. Merci beaucoup. On se dit à très vite.
À bientôt, Laura. Au revoir. Je mettrai tout mon poids pour faire pencher la vie du bon côté, le cœur léger. Voir les hommes comme les doigts d'une main qui construit pour toi et moi nos utopies.
Il est déjà temps de se quitter. Heureusement, vous pouvez retrouver des extraits inédits grâce à votre abonnement à la plateforme. Pour cela, il vous suffit de vous connecter et de vous rendre dans le centre de ressources. Si vous avez aimé l'épisode, faites-le savoir en laissant 5 étoiles et un avis sur Apple Podcasts ou en partageant votre écoute sur Instagram. Rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau témoignage. En attendant, on se retrouve sur les réseaux ou sur le site www.leclédugite.fr. Belle journée !